De quoi s'agit-il?
C'est tout ce qu'il y a de simple, voyons.
Enfin, qui êtes-vous?
Répondez.
Je ne sais pas pourquoi vous nous faites perdre notre temps.
C'est vraiment incompréhensible.
Alors j'écoute.
Merci.
Eh ben, je vous écoute, parlez, allez.
Allez-vous me répondre, oui ou non?
Cinérama.
Vous en êtes sûr?
Je suis certain.
Ah, un petit mot encore.
Cinérama.
Que faites-vous maintenant?
Actualité cinéma.
Ah bah oui, et vous êtes.
Et tout le reste.
Je ne crains pas d'affirmer que notre émission est une entreprise de salubrité publique.
C'est délicieux. Nous avons tous nos petits fantasmes.
Je sais que vous êtes très occupés, aussi nous ne vous retiendrons pas longtemps.
Je serais ravi de vous croire.
Bonjour, ça y est, les salles de cinéma ont rouvert leurs portes en espérant eh bien, ne pas les refermer de sitôt. Alors nous allons pouvoir parler d'autre chose que de VOD et de DVD. Dans cette émission, nous vous parlons de films dont la sortie n'a pas pu avoir lieu pour cause de confinement et qui se rattrapent donc au milieu de la trentaine de films programmés un peu partout en France. Aujourd'hui, on mélange pulsion meurtrière, point de vue sur la jeunesse, sur les désirs et documentaires précieux sur le cinéma. Bonjour Manu, bonjour Guillaume.
Bonjour.
Bonjour.
On n'est pas dans un studio de radio, mais on se les fabriquer. Et ben, qu'est-ce que ça vous fait, vous, finalement, la rouverture de ces salles?
Ben, je ne sais pas, en fait. En fait, c'était une attente assez importante au départ. Et puis, maintenant que les salles sont ouvertes, je me dis que ça va venir progressivement. Je ne suis pas sûr que ce soit le premier réflexe de gens, même cinéphiles, d'aller au cinéma, là, directement. Mmh. Et puis, il y a 22 films qui sortent. On ne sait pas trop quoi aller voir. Il y a beaucoup de reprises. Il y a des films qui étaient
déjà précédemment,
déjà
ça,
précédemment
oui.
En salle. Enfin, voilà. Je pense que c'est un peu bizarre. C'est un peu compliqué. Je pense qu'il y a des pertes de repères aussi chez les gens qui étaient habitués à y aller souvent.
Et toi, Guillaume?
Ben, moi, je suis plutôt content parce que, du coup, il y a quelques sorties que j'avais ratées. Au moment où tout s'est enfermé. Mmh. Et donc, du coup, ça va permettre de les revoir en bonne qualité. En attendant, ben, j'espère par contre la suite qui était prévue cet été, des titres qui ne sont pas encore sortis, qui vont vraiment être inédits, et j'espère qu'ils vont alimenter les ciné, quoi.
Mais voilà, donc il y avait la question de l'embouteillage. Effectivement, il y a un petit embouteillage, mais c'est aux exploitants maintenant de faire leur petit programme. Nous, on a fait le nôtre, finalement, avec des films donc, qu'on a vus. Donc, toi, Manu, ça va être deux films.
Deux films bon, relativement confidentiels, mais de très bon niveau. Hein. Midnight Runner, un film suisse, et puis un documentaire sur Alice Guy Blaché, Be Natural, un documentaire assez essentiel.
Oui, sur une réalisatrice française. Et toi, Guillaume, un film très attendu?
The Hunt, oui, la dernière production Blumhouse, qui a fait polémique.
Et puis, eh bien, Marine vous parlera de Jeunesse Sauvage. C'est un premier film, semble-t-il. Premier film aussi, c'est Benny de Nora Fingscheidt. C'est moi qui vous parlerai de ce film assez étonnant. Et puis, il y aura une interview dans cette émission. C'est celle des réalisateurs de Filles de Joie, Frédéric Fontaine et Anne Polisevitch. Film qui était programmé le 18 mars et qui sort pendant la rouverture des salles. Mais on débute avec la trajectoire d'une fillette violente, c'est Benny.
Vous avez vu un bon film aujourd'hui?
Cinérama.
Eh bien, oui, je crois que oui.
Maman! Maman!
Maman, hasse mich.
Les enfants en grande difficulté, voilà un sujet dont s'empare parfois le cinéma. Alors ils sont plus ou moins grands, hein. Ils peuvent avoir des difficultés sociales, physiques, psychologiques. Dans les exemples récents, on trouve La tête haute d'Emmanuel Berco qui nous fait suivre le parcours éducatif de Maloney de ses 6 à 18 ans, vu par le prisme de l'éducateur et de la juge pour enfants, Catherine Deneuve. Il y a aussi Pourquoi pas, eh bien, Mommy de Xavier Dolan, où cette fois-ci eh bien, l'adolescent hyperactif, impulsif et violent est à l'intérieur du foyer. Avec Benny de Nora Fingscheidt, qui aurait dû sortir pendant le confinement et qui est en salle depuis le 22 juin, on est dans une autre dimension qui nous fait relier le foyer familial dysfonctionnel et l'institution avec ses centres et ses éducateurs sociaux. Mais au cœur de Benny, il y a justement Benny, une jeune fille de 9 ans, brutale, impulsive, en manque d'amour, en manque d'une mère qui est incapable de s'en occuper. Alors une fillette capable sans doute du meilleur, mais qui peut faire voir le pire et dont la plupart des foyers eh bien, ne veulent plus. Alors autant parce que le cas apparaît compliqué que parce qu'il manque d'idées pour enrayer la souffrance.
«
Voilà un extrait de la bande-annonce qui plaira autant alors aux fans de Nina Simone qu'à ceux qui ont fait allemand première et deuxième langue. Alors il est intéressant de noter que le titre original de ce brillant premier film est System Sprenger, ceux qui explosent le système. Benny a donc 9 ans, elle va de foyer en foyer parce que sa mère immature ne peut plus s'en occuper, ne sachant pas gérer ses colères, pas plus qu'accepter ses contraintes maternelles. Alors heureusement, sur le trajet de Benny, il y a une assistante sociale qui tente de lui trouver un cadre stable. Alors l'idée est toujours de permettre à Benny de revenir avec sa mère. Mais faute d'engagement de la mère, eh bien la fillette est ballottée de foyer en foyer quand elle ne fait pas un détour vers l'hôpital si les crises de colère sont trop fortes. Benny, c'est une tornade, comme un monstre qui aurait pris le visage d'un ange. Alors au milieu de ces échecs, il y a un éducateur qui normalement n'a qu'une chose à faire, emmener Benny à l'école, mais qui décide d'en faire plus, d'appliquer à la fillette ce qu'il propose à des adolescents en échec, partir eh bien, 3 semaines en forêt. Autant dire que c'est un autre monde, une parenthèse pour Benny qui soulage aussi le spectateur tant il a vu la fillette basculer dans la violence. Alors le récit est limpide, la caméra est au plus proche de ses personnages avec une mise en scène sans fioritures tournée vers cette sauvageonne. Il s'agit d'un film rude qui secoue son spectateur avec un personnage en quête d'amour qui inspire l'effroi tout autant qu'il inspire eh bien, de l'attachement. L'une des nombreuses réussites de Benny est de ne pas faire dans l'angélisme ni dans la charge. Il n'y a pas d'un côté les gentils enfants broyés par la famille et les méchants services sociaux. Comme partout, il y a des personnes dévouées, inventives, qui ne lâchent rien, et puis d'autres qui baissent les bras. Au milieu, il y a Benny, ni bonne ni mauvaise, juste un être sensible, transformé par la colère et la frustration. Cette ignace blonde aux yeux bleus inonde l'écran. C'est une autre réussite de Benny. Le cinéma se nourrit des visages et celui-ci, eh bien, on s'en souvient longtemps. Alors le film n'est pas parfait, car s'il construit un drame en le rythmant, le scénario dérape sur une séquence qui est parfaitement ratée, faute de vraisemblance dans un récit qui est plutôt construit eh bien, par une solide base documentaire. Mais ça ne suffit pas à s'éloigner de ce Benny de Nora Finchheit qui bénéficie de beaucoup de copies puisqu'il a la faveur eh bien, des cinémas art et essai. À noter aussi que c'est le prix du meilleur premier film à Berlin. Et je pense que c'est mérité parce que, bon, à part ce petit accroc de scénario qui, bon, voilà, enfin, laisse un petit goût spécial, je recommande évidemment ce film Benny. D'un premier film allemand, on passe à un premier film suisse avec l'histoire d'un homme qui tente de résister à ses pulsions, Midnight Runner.
Et maintenant, quelle est la suite des opérations ?
Cinérama.
Oui, oh, ça va ?
Alors, premier long métrage du Suisse Hans Baumgartner, Midnight Runner aborde un sujet délicat. Alors, raccord avec une actualité brûlante, déterrant une affaire sordide sans jamais faire preuve d'opportunisme. Alors, si le film interroge sans complaisance l'image de la masculinité imposée par une société patriarcale, il ne surfe pas du tout sur la vague MeToo. Le film prend des allures d'étude de cas cliniques, fuyant les vérités plaquées et les analyses à l'emporte-pièce. Le réalisateur reste à sa place, n'étant ni psy ni juge. Alors il raconte une histoire terrifiante, inspirée d'un fait réel, celle de Mischa Ebner, appelé « le tueur de minuit » qui sévit au début des années 2000. Pour ne pas froisser les individus impliqués dans le drame et éviter le piège du récit crapuleux, Hans Baumgartner s'éloigne quelque peu de la réalité, intégrant des éléments fictionnels tout en préservant l'essentiel. Mischa Ebner devient Jonas Widmer, brillant coureur de fond en Suisse, dont l'ambition première est de participer au marathon des Jeux Olympiques. Cet athlète mène une vie conventionnelle et normée, façonnée par un quotidien ritualisé. En parallèle de sa pratique sportive, lui assurant une hygiène de vie irréprochable et agissant comme un exutoire, il exerce la profession de cuisinier et s'apprête à emménager avec sa petite amie Simone, une étudiante très amoureuse. Ils incarnent le parfait petit couple promu à un bel avenir. Il est soutenu par son coach et sa mère adoptive, même si une ombre plane sur ce tableau idyllique. Le suicide récent de son frère, que l'on aperçoit rapidement au détour d'images filmées après une course. Une enfance difficile est suggérée, ce qui ne paraît pas suffisant pour comprendre sa descente aux enfers. Où progressivement Jonas va céder aux pulsions meurtrières qui l'obsèdent. Alors, le cinéaste construit un personnage à la manière d'un peintre figuratif. Il observe un jeune homme équilibré en surface, se déstructurant graduellement par son incapacité d'exprimer verbalement sa souffrance émotionnelle. Jonas est un taiseux, il ne s'exprime que pour communiquer. Alors, il ne s'agit pas d'un refus, mais d'une impossibilité, à l'image de cette belle séquence avec sa mère adoptive, où il tente de parler de son frère sans arriver à canaliser ses émotions, à les extérioriser. Le cœur du film se trouve à cet endroit, dans ce confinement intérieur qui empêche un individu de dire simplement ce qui ne va pas bien. Le film ne dépeint pas un homme qui va entretenir avec la violence une relation de jouissance, mais au contraire, un empêchement de se substituer à ses penchants criminels. Le sport fait figure d'exutoire cathartique, hein, exprimant physiquement une violence obsédante. Hein. Ce n'est pas la seule entrée. Le réalisateur ne s'en tient pas à une explication. Il observe, traque l'évolution du personnage sans pour autant délivrer une vision univoque. Il ne s'agit pas de critiquer les failles d'un système, ni de s'en mêler les pinceaux dans une périlleuse analyse psychanalytique de la double personnalité. Le film développe une empathie distanciée, une tentative d'humaniser un homme qui s'éloigne de son humanité. Alors cette approche permet de ressentir une terreur profonde et ancrée, de celle qui nous chuchote à l'oreille, hein, que n'importe qui d'un peu fragile peut sombrer dans la folie, insinuant donc l'idée que nos garde-fous, nos protections naturelles, ne tiennent qu'à un fil. La rigueur, hein, de la mise en scène participe à la réussite éclatante de ce premier film, hein, qui est vraiment très 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 maîtrisé. Hein. Dès les premiers plans, la caméra sculpte, hein, même comme un sculpteur, hein, les contours d'une personnalité, une personnalité complexe montrée en pleine action dans un quotidien très physique, que ce soit à travers le sport ou dans son travail de cuisinier. Baignant dans une lumière crue au naturalisme blafard, accentué par la froideur de décor et l'absence de musique, hein, on va dire esthétique typique d'un certain cinéma allemand, suisse, enfin de l'Est, hein, Midnight Runner développe une approche plus sensible qu'analytique. C'est un paradoxe, hein, une émotion discrète contamine le film à travers le regard bienveillant des proches de Jonas, qui ne voit pas en lui l'agresseur au couteau de jeune femme. Portrait sans concession et cruel d'un serial killer anonyme, Midnight Runner interroge lucidement la frontière qui est poreuse entre le bien et le mal, l'équilibre et le déséquilibre qui peut s'emparer soudainement d'un être humain. Alors cette réussite ne serait rien sans l'interprétation habitée de l'acteur principal au regard d'acier, l'impressionnant, alors Max Hubacher, dont la complicité paradoxale et ambivalente avec le cinéaste frappe à l'écran. Je crois que le film, qui est une réussite, doit aussi beaucoup à son interprète principal, qui est quasiment de tous les plans, de toute façon.
Alors, on a déjà deux films qu'on a appréciés. En voilà un troisième qui nous emmène cette fois-ci dans une maison close. Alors, on ne peut pas dire que tous les sujets soient forcément très joyeux, effectivement. Fille de joie, pourtant, ça s'appelle. Programmé le 18 mars, donc jamais sorti. Fille de joie nous emmène donc dans une maison close en Belgique. Et c'est l'interview de Cinérama.
J'ai quelque chose à dire.
Cinérama.
Mais tâchez de faire vite.
Elles sont trois. Trois anti-héroïnes qui tous les jours traversent en voiture la frontière pour aller se prostituer dans une maison close en Belgique. Elles ont des vies bien différentes. Conso, jouée par Annabelle Langrone, est amoureuse d'un jeune homme pour qui cela ne semble guère réciproque. Axel, incarné par Sarah Forestier, tente de se séparer de son ex-compagnon violent et abusif. Et Dominique, que joue Noémie Lvovsky, est en réalité une mère de famille qui veut tout simplement faire vivre ses enfants. Elles quittent toutes les trois leur banlieue du Nord tous les matins et se transforment en prostituées au nom de déesse grecque, une fois arrivée en terre belge où la prostitution est légale. Alors à aucun moment du film on ne verra les passes ou les clients. Le réalisateur préfère filmer les moments d'attente, les conversations, tantôt drôles, parfois émouvantes entre les femmes, puis leur retour à la vie normale tous les soirs. Les choix de construction du film, de montage, avec des allers-retours entre passé, présent et futur, donnent une vraie singularité à ce qui aurait pu être un simple drame social, sans réelle intention artistique. Le réalisateur Frédéric Fontaine, à qui l'on doit notamment Une liaison pornographique ou encore Tango libre, et la scénariste Anne Polisevitch, aborde ici la prostitution de façon crue et sensible, en se délestant de toute question morale. Fille de joie est un drame qui parle surtout de femmes et de sororité. Car lorsque vie privée et travail vont malencontreusement se rencontrer, les trois femmes ne pourront compter que sur la solidarité féminine. Alors il est vrai qu'ici, les hommes n'ont pas le beau rôle, hein, ils sont violents, absents, menteurs, infidèles, impuissants, mais c'est surtout pour mieux mettre en valeur ces femmes, certes victimes, mais toujours combattantes et magnifiquement incarnées par un trio d'actrices dont l'alchimie irradie littéralement l'écran.
Nous écoutons Frédéric Fontaine et Anne Polisevitch.
Circé, Lola, Hera, Sherazade. Pour les prestations, 100 euros la demi-heure, 130 et 3 quarts d'heure.
Plus vite.
T'étais où la nuit dernière?
Toi, t'étais où?
Tu reviens encore une seule fois, je te jure que j'appelle les flics.
Moi, j'ai des rêves, ok? Moi, j'ai toute la vie devant moi.
Je suis tombée sur un article de femmes qui traversent la frontière et qui se prostituent entre la France et la Belgique. En plus, il faut savoir que moi, je suis française vivant en Belgique. Fred est belge. Alors, c'est vrai qu'il y a aussi ces deux pays comme ça. Mais je ne sais pas, ça m'a parlé. Et je me suis dit, c'est par ce biais-là que j'ai envie de parler de l'héroïsme. Et parce qu'en plus, je trouve que c'est intéressant parce que c'était peut-être pas le premier mot qu'on aurait mis sur ce sujet. Et puis qu'en plus, la prostitution, c'est vrai que je n'avais pas pensé travailler sur la prostitution, mais la prostitution, c'est aussi un fantasme. Un fantasme qui appartient, quoi. plein de fantasmes de tout le monde, qu'on soit homme ou femme. Et ça m'intéressait aussi d'aller voir derrière ce fantasme la réalité, en fait, d'aller à la rencontre de ces femmes.
Ça fait bander les phoques, je crois.
Ah non, mais attends, je fais pas comme ça, moi.
Si, tu fais exactement comme ça.
Non. Elle met en valeur ses attributs féminins.
Exactement, alors que toi, tu fais peur, t'as vu? Attends, t'es comme ça. T'es là.
Et alors? Moi, je mens pas. On me prend comme je suis.
Mais arrête! Mais le gars, il s'en fout de qui tu es ou quoi. Lui, en fait, ce qu'il veut, c'est...
J'ai nourri la fiction de la réalité, de tous les détails de la réalité. Elles m'ont raconté plein de choses. Elles me racontaient ce qui se passait en chambre. On était ensemble dans le salon des filles. Moi, j'étais là pendant des heures. J'étais 2 à 3 fois par semaine quand même pendant 9 mois. Puis après, j'ai continué à rester en dialogue en permanence avec elles. Donc, évidemment, elles me racontaient aussi ce qui se passait dans leur vie. Parce que quand elles sont dans le salon en train d'attendre, elles ne sont pas là juste en train... Y a tout, il y a la vie. Et en même temps, c'est aussi presque un havre de paix dans le sens où elles ne sont pas justement dans le bordel de la vie de l'extérieur. C'est un drôle de truc, c'est comme un cocon, un drôle de cocon.
Casse-noisette. Tu sais que c'est le pire, lui. Tu sais ce qu'elle m'a dit, la boulangère? Les filles, hein, il est des pucelles. Ils les filment et ils les foutent à poil sur Internet. Les racailles comme eux, ils putifient les filles, c'est ce qu'ils font.
C'est pas vrai. C'est une mytho, la boulangère.
Tu crois quoi, en fait? Tu crois que c'est parce qu'ils ont pas encore leur putain de bouton qui sont sortis que c'est pas des fils de pute?
C'est des gamins, des petits gamins.
Ton fils, c'est un gamin?
Bah ouais.
De toute façon, tu sais quoi? Moi, c'est tout. Hein. Moi, avant qu'elle ait 12 ans, Charline, je me barre d'ici, voilà. Ma fille, ça sera pas un steak haché.
On te dit des trucs sur ma fille?
Quoi?
Tu dis quoi? Tu dis que mon fils c'est un Mac et ma fille un steak haché?
Non.
La boulangère, elle t'a dit des trucs sur ma fille ou sur mon fils?
Non, Do. Non.
Alors pourquoi tu dis ça?
Mais parce que je te parle de ça, je parle de ça.
Alors tu vois, écoute-moi bien, parce que ma fille c'est pas un steak haché, ça sera jamais un steak haché.
Putain, j'ai pas dit que ta fille c'était un steak haché!
Tu l'as sous-entendu!
J'ai rien sous-entendu du tout! C'est lui, ce fils de pute, il prend les filles pour des steaks hachés! Ta fille c'est pas un steak haché! Moi je suis pas un steak haché, t'es pas un steak haché! C'est ça que je dis, on n'est pas des steaks hachés!
Ce qui m'intéressait beaucoup, c'est ce que j'avais ressenti quand j'étais rencontré ces femmes là avec Anne dans le salon des filles et tout. J'ai senti finalement quelque chose de très cru, de très noir dans ce qu'elles vivaient, mais une puissance de vie mais gigantesque, presque décuplée. J'avais l'impression qu'il y avait plus de vérité dans cet endroit que partout ailleurs. Et donc le but, c'était de pousser la vie dans le cinéma et que ça soit vivant. Et ben, pour que ça soit vivant, peut-être qu'on se dit « Ah, c'est simple, elles sont vivantes », mais c'est tout un travail où elles se poussent l'une l'autre, où on passe par des improvisations, par de la recherche, par des risques, et il y a plein de choses qu'on n'a pas mis au montage pour arriver à cette... pour moi, quand je déclenche une caméra, la vie continue. On est en train de filmer notre vie ou la vie, et c'est ça que j'ai voulu faire parce que c'était le fond même du film, c'était de montrer que ces femmes étaient vivantes et qu'elles faisaient partie du monde des vivants. Et qu'une des choses, moi, qui m'avait énormément choqué pendant l'affaire DSK, justement, c'est qu'on voulait pas, on n'entendait pas, on voulait pas savoir qui elles étaient. On voulait pas les entendre, oui. Et j'ai voulu simplement les remettre parmi nous.
C'était Frédéric Fontaine et Anne Policevic, les deux réalisateurs qui sont en couple, hein, de Filles de joie. Donc, un film en salle depuis le 22 juin. Film très attendu, The Hunt, la chasse de Craig Zobel, la farce gore, empêchée de sortir par 2 fois. Et c'est toi, Guillaume, qui nous en parle.
À quoi sommes-nous confrontés?
Cinérama.
C'est quoi, ça une blague ou quoi?
On est dans quel état, ici?
En principe, on sait où on est.
Les principes, c'est pas mon truc.
Vous êtes dans le bel état de l'Arkansas, ma belle. Vous avez une autre question?
Imaginez un monde merveilleux où les garants du bon goût ont toujours le mot qu'il faut, où les méchants sont violemment punis par là où ils ont péché et où on se soucie activement de ne choquer personne sous peine de se voir banni de la société. Vous ne rêvez pas, c'est bien le monde d'après, du moins en apparence. En vrai, Jason Blum nous revient en colère, mais avec le sourire, avec sa dernière production en date, le bien nommé The Hunt. Derrière ce nom simple mais belliqueux se cache un film qui aura connu une vie compliquée avant d'atterrir une bonne fois pour toutes ici, dans nos salles. Alors d'abord prévu pour 2019, The Hunt connaîtra des soucis dans son pays d'origine, où il aura la malchance de sortir au même moment que les tueries de Daytona et d'El Paso. Jugé trop subversif à cause de sa violence décomplexée, il sera reprogrammé quelques mois plus tard chez nous, mais cette fois, c'est un certain virus qui va stopper son exploitation. Donc pas de chance pour ce qui s'annonçait comme un brûlot politique mordant, ridiculisant l'air du temps. Bon, alors, il faut aussi savoir que la déprogrammation avait tout du bon coup publicitaire pour Blum, qui est coutumier de la chose. En bon monsieur loyal, il a sauté sur l'occasion pour permettre à l'aura du film d'enfler et de donner au plus grand nombre l'envie de s'y frotter. Car The Hunt est bien une attraction de foire. Conçu comme un grand 8 sans temps mort, c'est un jeu de massacre qui commence in medias res. Des hommes et des femmes qui ne se connaissent pas se réveillent dans la nature avec des baillons et des armes et réalisent très vite que pour survivre, il va falloir riposter au mieux face aux attaques incessantes qui peuvent survenir à n'importe quel moment. Le terrain dans lequel ils évoluent est traître, les apparences la plupart du temps trompeuses et la mort pointe le bout de son nez quand on s'y attend le moins. La seule chose de sûre, c'est qu'ils sont tous plus ou moins bofs, conspirationnistes, pro-armes, redneck, homophobes ou tout simplement de droite. On va comprendre très vite que le bras puissant armé qui s'abat sur eux n'est pas divin, mais du bord politique inverse. Ce dernier va décider de se venger de leur militantisme sur Internet, où il est permis de calomnier qui on veut et d'accuser des gens en détournant leurs propos de leur contexte d'origine.
Ils nous ont pas choisis par hasard.
Je vais pas me laisser faire.
À la guerre comme à la guerre.
Vous ne savez pas à qui vous avez affaire.
Ce coup-ci... Ils n'ont pas choisi la bonne personne. Game of
survival. Ils vont vous massacrer.
On verra.
On sait que le cinéma américain a toujours eu cette fabuleuse faculté de regarder droit dans les yeux son histoire récente et d'utiliser le 7e art comme moyen d'analyse et de débat dans le cadre de divertissement populaire. Donc pour autant, The Hunt ne se revendique pas des plus réflexifs Oliver Stone ou Alan J. Pakula, mais bel et bien du cinéma le plus bis qui soit, comme en témoignent les 20 premières minutes ultra sanglantes. Ici, on y reprend l'adage « l'homme est un loup pour l'homme » de toutes les façons possibles et on marche sur les terres saignantes de films comme « Les chasses du comte Zaroff »,« Que la chasse commence » ou « La chasse à l'homme » qui fut, on le rappelle, le premier film hollywoodien de John Woo. Donc, on le voit, un scénario riche en polémiques et qui, en plus, n'hésite pas à mentionner tous les sujets sensiblement populaires de ces dernières années, de MeToo aux migrants, en passant par la représentation des minorités et de la haine sur le web. Cette intensité est malheureusement dégoupillée par un second degré permanent qui installe progressivement une distance de plus en plus grande entre ce qu'il semble dénoncer et le spectateur. Le pensum politique n'existe pas vraiment face au carnage et se transforme en poil à gratter, en définitive inoffensif, à l'inverse par exemple de Society de Brian Yuzna, où les excentricités visuelle extrême n'enlève rien au sérieux de sa peinture de la lutte des classes. Bon, on aurait aimé que son intelligence soit à la hauteur de sa hargne jubilatoire, alors qu'il s'enfonce progressivement dans des clichés un poil racistes sur les pays de l'Est en foi ni loi, comme dans les Hostel des Liros. Comme d'habitude dans les productions Blumhouse, il y a le plaisir de retrouver des gloires vieillissantes du genre, comme ici la Amy Madigan des Rues de Feu, ou Reed Burney, le héros du génial Mort sur le Grill, qui joue ici un petit couple de vieux tueurs absolument désopilants. N'oublions pas de mentionner la performance de l'anti-héroïne jouée par Betty Giplin, le coup de génie du film, véritable Buster Keaton au féminin balancé dans un cartoon live d'Itchy et Scratchy. Bref, pour un vrai grand film politique intense et marquant, on se repenchera plutôt du côté de Punishment Park ou des Révoltés de l'an 2000, qui ressort lui aussi cet été dans une nouvelle copie restaurée. Pour The Hunt, on se contentera de son aspect fun, doigt dans le nez et sans aucun temps mort, ce qui est déjà très très chouette en soi.
The Hunt, donc La Chasse, film attendu, est en salle depuis que celles-ci sont réouvertes. Après le monde de la chasse, on se plonge dans l'univers des voleurs avec Jeunesse Sauvage. Et c'est Marine qui nous en parle.
This is Cinerama.
Et ça c'est clair.
Faut que vous soyez invisibles, comme des ombres. Faut que tu vois à travers les gens. Pour ça, faut passer des heures dans la rue.
J'y passe ma vie, déjà.
Nous sommes à Sète, en Languedoc-Roussillon, et la ville baignée de soleil est le terrain de jeu d'une bande de délinquants mineurs, pour la plupart menés par un certain Raphaël, jeune chef de gang aussi beau que dangereux. Raphaël apprend à de jeunes ados l'art du vol à la tire et en parallèle, en cachette, il tente de prendre soin de son père, devenu avec le temps SDF et psychotique. Le jeune homme aimerait sortir de cette vie de violence, quitter la rue, mais il va se retrouver confronté à l'impossibilité de fuir son destin.
Faut que je m'arrête, attends, wait, j'ai le gland, wait, je pompe le torse quand on me pompe, j'avais déjà les crocs avec des dents clés.
Jeunesse Sauvage est le premier film de Frédéric Carpentier, tourné donc dans la ville de Sète, une ville qui a d'ailleurs inspiré de nombreux cinéastes, de Agnès Varda à Claude Sauté en passant par Tony Gatliffe et sans oublier, bien sûr, la dilogie « Make to My Love » de Abdelatif Kechiche. Ici, c'est le côté obscur de la ville que l'on va découvrir. « Jeunesse sauvage » est une fable moderne, cruelle, sur fond de Méditerranée et de misère urbaine. Un film auquel sa lumière très soignée donne des allures de tragédie ensoleillée. En dehors de Pablo Cobo qui joue le rôle de Raphaël et qui affirme une présence totalement magnétique tout au long du film, le casting est constitué en partie de comédiens non professionnels dont beaucoup étaient en réinsertion sociale au moment du tournage. L'inconvénient qui découle de ce choix, eh bien, c'est parfois un léger manque de justesse dans la diction de certains des acteurs. Jeunesse sauvage est un film qui a des imperfections, certes, mais qui possède également une vraie sincérité et c'est au final ce que l'on retient.
Faut que je m'arrête, attends, ouais, j'ai le gland, ouais.
Jeunesse sauvage de Frédéric Carpentier est donc en salle depuis que celles-ci sont rouvertes. Il y avait les Frères Lumière, il y avait Méliès et Alice Guy Blaché maintenant, hein, qu'on a complètement oublié. Et un documentaire sur l'histoire de cette réalisatrice, la première femme réalisatrice, productrice et directrice de studio de l'histoire du cinéma, eh bien, est raconté par Jodie Foster. Et c'est en salle et c'est toi qui nous en parles, Manu.
Voyez ce que vous pouvez nous concocter de beau dans ces 5 minutes.
Cinérama,
c'est un passe-temps surprenant.
Alors, Be Natural, hein, c'est rester naturel. Était une sorte d'injonction, ou plutôt un conseil pertinent adressé à ces comédiens par Alice Guy Blaché, un pionnière du 7e art, effacée de l'histoire pendant très longtemps, pour des raisons que seule la raison ignore. À la fin du 19e siècle, si une femme peut trouver sa place devant les projecteurs, on voyait souvent des actrices, il est en revanche quasi impensable qu'elle se retrouve derrière la caméra, le statut de réalisateur étant alors exclusivement réservé aux hommes. Mais c'était sans compter le talent d'Alice Guy et puis d'autres, parce que c'est pas la seule, il y a aussi Germaine Dulac, Marie Epstein ou encore Lois Weber, qui avaient compris que le cinéma était une fenêtre sur le monde et que partir de situations simples et réaliste tout en les distordant par la suite, pouvait donner de grandes choses. Alors ne pas simplement enregistrer le réel, mais le tordre, le magnifier et l'ironiser. Alors présenté à Cannes en 2018 dans la section Cannes classique, le documentaire de la jeune Pamela Green sort enfin sur les écrans. Pamela Green a mis 8 ans quand même pour monter son projet, recueillant une multitude de témoignages, regroupant des infos inédites, fruit d'un véritable travail d'investigation. Alors dès l'ouverture, dynamité quand même par un montage ultra speed, la voix off de Jodie Foster nous embarque à tout allure dans une histoire hors du commun, un hallucinant voyage au pays du cinéma où la magie réserve parfois de bien sinistres dessins. Alors comment se fait-il que cette femme brillante, cultivée, intelligente ait été à ce point négligée? Alors la première réponse qui vient à l'esprit, et qui est d'ailleurs quasiment la seule, parce que c'était une femme, c'est évident. Alors plus que tout autre art, le cinéma s'est progressivement construit une identité purement masculine. Alors, en fait, qu'à ses tout débuts, plusieurs femmes ont débuté par ce biais. Le cinéma n'était pas pris au sérieux comme le théâtre ou la littérature. C'était un spectacle de foire, un divertissement pour amuser les foules. Il n'est donc pas étonnant de retrouver un certain nombre de réalisatrices au début du XXe siècle. Mais le cas d'Alice Guy dépasse l'entendement. Elle fut une pionnière à la même période que les Frères Lumière. La Fée aux Choux, en 1896, court-métrage de quelques minutes, longtemps attribué d'ailleurs à un autre cinéaste et daté de 1902. Plus fou encore, Alice Guy expérimenta la couleur, les travelling, le split-screen, apportant d'emblée une modernité dont la plupart de ses collègues masculins étaient dépourvus. Elle s'amusait aussi à renverser les clichés, alors jouant sur la réversibilité de la guerre des sexes, faisant jouer aux filles des personnages forts, malmenant des hommes fébriles, subissant les humiliations des héroïnes. Ça, c'est un aspect vraiment très très moderne, et il y a de courts extraits dans le documentaire. Alors, pour tout cinéphile, le documentaire de Pamela Green se révèle indispensable, suscitant une excitation et un désir communicatif de découvrir l'œuvre pléthorique de ce petit bout de femme ayant signé plus de 1000 films. Elle apparaît dans une interview des années 50, archive précieuse, où elle évoque avec beaucoup d'humour et de distance son parcours de combattante. Elle partit très vite aux États-Unis, une contrée qui l'a accueillie avec plus de respect que la France, où elle put tourner avec son mari, créant la société Solax Film, une multitude de films. De retour en France, elle ne put jamais retravailler, malgré ses nombreuses lettres adressées à Léon Gaumont. Alors sans rentrer dans les détails, l'histoire de cette dame est passionnante. Revers de la médaille, ce foisonnant documentaire, alors mené comme une enquête, pêche par un excès d'informations, induisant une attention permanente et puis de posséder malgré tout quelques prérequis historiques et sur l'histoire du cinéma. Alors le film est emporté par le débit très énergique d'une Jodie Foster impliquée. Hein. Lorsqu'elle se tait, c'est pour laisser la parole à l'intéressé dans les archives et aussi à des personnalités comme Julie Delpy, Peter Farrelly. Enfin, il y a beaucoup de monde. Hein. Alors laissant supposer qu'elle fut reconnue quand même aux États-Unis dans les universités bien avant la France. Hein. Passionnant et éreintant, hein, Binatural est animé par une envie de transmettre, hein, qui fait vraiment plaisir. L'objectif est atteint. Sitôt sorti de la projection, on n'a qu'une envie, découvrir la filmographie de la cinéaste dont les plus éminents historiens, de Georges Sadou à Jean Mitry, ont tout simplement ignoré, attribuant certains de ses films à Louis Feuillade, par exemple. Alors par paresse, par méconnaissance, et puis peut-être un petit peu par misogynie, je pense.
Oui. Be Natural, donc c'est le documentaire que l'on recommande.
C'est fini ?
Eh bien, oui, je crois que oui.
Oh, c'est pas possible.
Ah, si, je vous assure.
Non, vous n'avez pas perdu de temps, c'est très bien.
Foutez ma gueule !
La semaine prochaine, on se retrouve encore pour parler de l'actualité cinéma, mais en piochant dans certains vieux films, notamment David Lynch, l'occasion de faire un blind test spécial David Lynch la semaine prochaine.
This is Cinerama.